Chapitre 6. En arrivant à mon appartement, j'étais tellement à côté de la plaque qu'il a fallu que je teste toutes mes clés pour savoir laquelle ouvrait ma porte. Puis j'ai dû recommencer parce que je m'étais trompé d'étage. Pas frais, le garçon. La tête en vrac. J'ai éprouvé un vrai soulagement en refermant derrière moi. Besoin de me réfugier. Parce qu'après le choc, vient la déprime. Ces deux-là traînent souvent ensemble, complices des mauvaises heures. Je suis resté debout, figé dans l'entrée, mon blouson sur le dos, sans savoir si j'allais pleurer, rire ou chanter une chanson très triste, dont un bataillon de soldats de l'armée rouge entassés dans le salon allait reprendre le refrain d'une magnifique voix grave. J'ai la désagréable sensation de ne plus reconnaître mon domicile. Tout me paraît trop grand pour ma toute petite vie. Je n'ai jamais souhaité y vivre seul, et c'est en réfléchissant pour deux et plus, puisqu'affinité, que je l'ai choisi. C'est pourtant bien mon logement, mais il me semble différent, étranger. Mon regard s'arrête sur le grand calendrier qu'un conseiller bancaire m'a offert pour la nouvelle année, et que j'ai posé au hasard en attendant de le recycler. Surprenant objet, lorsqu'on y songe. Des colonnes de dates bien ordonnées, des jours fériés, des lunes, des vacances par zone, une succession de fêtes à souhaiter. Un futur méthodiquement pré-casé que la réalité des jours qui s'écoulent remplit au fur et à mesure. Comme un sablier. Si Darshan dit vrai, ce calendrier-là sera probablement mon dernier. Finalement, je ne vais peut-être pas m'en débarrasser, mais au contraire le vénérer comme un symbole sacré. Une évidence me saute aux yeux. Chaque bien matériel constituant notre quotidien s'inscrit dans la perception que nous avons du temps. Faites le test chez vous. Vous constaterez à quel point c'est frappant. La mienne s'est brisée ce soir. On conserve, on entasse parce qu'on se dit que ça pourra servir un jour. On collectionne, on archive parce que l'on parie que plus tard, cela nous aidera à nous souvenir. Dans mon cas, il vaudrait mieux que ça serve vite. Et pour le reste, je m'en souviens très bien puisque rien n'est vraiment vieux. J'ai voulu aller prendre une douche. Mais sans savoir comment, je me suis retrouvé torse nu sur mon canapé, sans le moindre soldat pour chanter mon désespoir avec moi. Dommage. J'aurais bien bu un verre avec eux, ça m'aurait changé les idées. Le cerveau humain est quand même incroyable. Chaque fois qu'il se trouve confronté à un événement qui le dépasse, il est prêt à sécréter n'importe quelle histoire pour s'en libérer. J'ai déjà vécu ce phénomène par trois fois. La première, c'était à la mort de mon père. Pendant des semaines, j'ai raconté à mes copains d'école et à mes professeurs qu'il était en voyage d'affaires et qu'il allait revenir immensément riche. La seconde, c'est quand ma mère nous a quittés. Là, j'ai raconté à tout le monde qu'elle était morte. Elle n'a d'ailleurs pas ressuscité depuis dans mon esprit, même si je crois savoir que tout va bien pour elle dans le sud. Paradoxal, n'est-ce pas ? J'ai nié la disparition réelle de mon paternel de toutes mes forces, alors que j'ai inventé celle de ma mère, tellement je lui en voulais de refaire sa vie sans nous. Comme quoi, ce qui nous épouvante dans un cas, nous arrange bien dans l'autre. La troisième fois, c'est quand je me suis fait larguer. Je n'y ai tout simplement pas cru. Cela ne pouvait pas être vrai. J'aimais vraiment Cassandra. Elle était la femme de ma vie. Je suis convaincu qu'elle l'est toujours. Pourtant, c'est arrivé. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je trouve étrange que les douleurs liées au syndrome soient survenues peu de temps après. Mais est-ce si étonnant? Que vais-je pouvoir inventer pour échapper au cataclysme qui m'atteint ce soir? Se peut-il que Darshan, pressé par nos nombreux amis trop rigolards, se soit laissé convaincre de me jouer un vilain tour? On s'est déjà fait des blagues stupides, mais de ce niveau-là, ce serait une première. Peut-être ont-ils fomenté cette histoire pour me donner le coup de pied aux fesses, capable de me faire enfin sortir de ma léthargie. Dans ce cas, c'est très réussi. Je commençais presque à me convaincre que ce diagnostic n'était qu'une mascarade, lorsque je me suis soudain souvenu du regard de mon ami. Il ne faisait pas semblant. Impossible. Alors, que vais-je faire de ces mois qui me restent? Toute la question est là. Il s'agit pour moi de redéfinir le sens des mots « jamais » ou « peut-être » appliqués à ma nouvelle vie. Toute une échelle de valeurs à revoir en fonction d'un potentiel qui vient de fondre comme un glaçon dans une poêle à frire. Me morfondre ne servira à rien. Négocier avec un dieu, quel qu'il soit, pour obtenir un délai, non plus. Est-il raisonnable de parier sur la science? Dois-je utiliser une partie du temps qu'il me reste pour tenter d'en grappiller un peu plus? Comme ces joueurs de casino qui misent leurs gains pour en obtenir davantage sans savoir s'arrêter et qui de toute façon finissent par tout perdre. La banque gagne toujours à la fin. Je me suis levé et suis allé chercher le seul objet personnel que je possède de mon père. La montre qu'il portait au moment de son accident. Je n'ai jamais su pourquoi ma mère me l'avait donnée le jour des obsèques. Je l'ai tenue serrée dans ma main pendant toute la cérémonie. Le verre est fêlé et les aiguilles bloquées sur 19h14. Avec papa, sur ce cadran, j'avais appris à lire l'heure. Privé de lui, c'est aussi dessus que j'ai compris que le temps pouvait s'arrêter. Après le drame, sans que j'ose l'admettre, elle ne m'a pas quitté pendant des mois. Dans ma poche, sous mon oreiller, comme un talisman, protégé dans un carré de velours où elle se trouve encore ce soir, dans le tiroir où je range tout ce que je dois sauver si mon appart brûle. Autant dire pas grand-chose. Je n'ai porté cette montre que très exceptionnellement, quand j'avais vraiment besoin de convoquer la chance. Ce genre d'amulette ne fonctionne que lorsque vous êtes assez en panique pour croire qu'à travers un objet, celui qui vous aimait peut encore vous protéger. La dernière fois, c'était pour ma soutenance de thèse. Elle a parfaitement joué son rôle. Aujourd'hui, elle me paraît plus petite que dans mon souvenir. Mes mains n'ont pourtant pas grandi depuis la dernière fois. Je ne vais pas l'enfiler. Ce n'est pas de chance que j'ai besoin, mais de courage. Je la serre très fort en espérant que mon père est un peu avec moi. L'espoir fait vivre, mais l'espoir mal placé vous fait perdre votre vie. Traîner quelques semaines de plus ne changera rien au fond du problème. Mon esprit chamboulé carbure dans tous les sens. Ce n'est pas un match qui se prépare en moi, mais une course de vitesse, un sprint. Pour la première fois, toutes les équipes sont dans le même camp et on joue contre le chronomètre. Je ne vais pas me mentir, je n'en ai plus le temps. Certaines préoccupations s'évanouissent purement et simplement, tandis que d'autres émergent. Dorénavant, ce qui ne sera pas fait rapidement ne sera pas fait du tout. Que vais-je faire de cette nouvelle donne? Quel dossier vais-je passer au-dessus de la pile? C'est lorsque les gens ne sont plus contraints à rien qu'ils sont réellement libres. J'en suis là. Plus rien à perdre. Étrangement, ce ne sont pas des envies de voyage, d'exploit ou d'excès qui me viennent. Ce sont deux visages qui m'apparaissent. Et il me sourit.